Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet extrêmement compliqué, difficile dans le domaine de la psychologie, qui est un sujet transdisciplinaire en soi, parce qu'il a été discuté par des philosophes, des neuroscientifiques, hein, comme dans des représentants de différentes disciplines, donc qui est le sujet de la conscience et le cerveau. Donc, étant donné la grande complexité et la difficulté du sujet, évidemment, moi je vais vous présenter une toute petite partie, une petite réflexion neuroscientifique et psychologique sur le problème de la conscience, plus pour vous illustrer les méthodes et les moyens par lesquels, en fait, on peut essayer de répondre à un certain nombre de questions posées par le problème de la conscience. C'est un problème extrêmement difficile, donc qui est d'emblée très intimidant pour n'importe quel chercheur aussi, hein, à discuter sur ce sujet. Et d'ailleurs, très peu de neuroscientifiques aussi osent s'attaquer à ce sujet. Donc moi, je vais vous le présenter plus sur le plan pédagogique, hein, en quelque sorte. Je ne suis pas une spécialiste neuroscientifique de la conscience. Un philosophe, David Chalmers, avait déjà présenté quel a été le problème d'emblée posé pour la question de la conscience, qu'il avait résumé sur la question du problème facile et le problème difficile de la conscience. Alors, le problème facile consiste à expliquer l'intégralité des comportements, des opérations mentales qui sous-tendent nos opérations mentales conscientes, par exemple le langage, les représentations, les calculs, nos décisions volontaires. Ça, on peut expliquer ce genre d'opérations mentales et chercher à comprendre quels sont les processus qui les sous-tendent et quels sont leurs corrélats neuronaux au niveau du cerveau. Donc ça, c'est un problème donc défini ici par Chalmers comme le problème facile de la conscience. Cependant, le problème difficile de la conscience, c'est comment expliquer nos états subjectifs créés par ces opérations mentales et qui accompagnent toute expérience consciente. Hein, par exemple, l'expérience, quand on a mal quelque part, on peut expliquer les processus neuronaux qui sous-tendent en fait la douleur, qui génère la douleur, mais l'expérience même de la douleur, pour chacun, va être extrêmement subjective. Et donc, pour beaucoup de personnes, il existe un gouffre explicatif, comme d'autres l'appellent explanatory gap, entre ces deux niveaux d'explication. Et pour certains, ce gouffre est difficile à combler. Pour d'autres, en fait, on peut toujours trouver trouver des explications tout à fait satisfaisantes et qu'il n'y a pas forcément un gouffre entre ces deux niveaux explicatifs. Et donc, on peut toujours se poser la question si on peut poser une explication matérialiste des états mentaux de l'expérience intime d'un être conscient. Et ça, c'est tout le problème, en quelque sorte, de la conscience. Et on va voir que dans les différentes traditions philosophiques ou scientifiques, les chercheurs ont essayé de résoudre ces questions à leur manière. Donc il y a peut-être une trentaine de théories neuroscientifiques sur la conscience et encore des innombrables théories sur la conscience elle-même. Et on va voir que chacune de ces théories essaie en fait de répondre à sa manière à cette question. Bien entendu, on ne va pas résumer ici l'ensemble de ces théories, je vais vous donner juste deux grandes positions dominantes. La première, c'est la position dualiste de substance que vous connaissez et qui est héritée donc par Descartes, qui au XVIIe siècle avait proposé que les aspects subjectifs de la conscience sont de nature distincte du monde matériel. Donc d'emblée, c'est une position dualiste, mais il faut la replacer aussi dans les conditions de travail des scientifiques à l'époque de Descartes au XVIIe siècle. Puisque, en fait, quand on regarde de très près la position de Descartes, son dualisme était quand même assez matérialiste, parce qu'il avait proposé quand même une position assez matérialiste en disant que Dieu a fabriqué notre corps comme une machine, et que c'est pour ça qu'on appelle ce dualisme de substance, hein, puisque Descartes proposait qu'il ne reste rien à nous que nous devions attribuer à notre âme, sinon nos pensées. Hein, par exemple. Donc, en fait, peut-être ce dualisme de substance était nécessaire à l'époque pour permettre aux scientifiques de s'affranchir, en quelque sorte, de l'autorité de l'Église et pour pouvoir mener ce genre de recherche sur la conscience. Hein. Il restait tout de même de la question comment réunir ces deux niveaux, matérialiste et la question de l'âme et de la matière, hein, que séparait ici Descartes. Et donc la manière dont Descartes essayait de proposer une union entre ces deux niveaux, c'était de proposer qu'une petite glande était le point de jonction donc entre le corps et l'âme. Donc à l'époque, donc il avait proposé cette glande, la fameuse glande pénéale. Alors, il faut savoir que, comme on a souligné, le dualisme de Descartes était certainement nécessaire à son époque, au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, en fait, il faut savoir que le dualisme continue, cette vision dualiste continue de persister. D'ailleurs, au XIXe siècle, elle a été un des obstacles d'une recherche scientifique autour de la conscience parce que, héritière de cette position dualiste, on pensait que toutes les questions qui concernent les opérations mentales, l'esprit, la conscience, devaient ne pas être traitées par les sciences de la nature, en fait, mais qui appartenaient à d'autres domaines, donc, de connaissances. Et ce n'est que bien plus tard qu'on va reprendre, en fait, ces recherches sur la conscience. Lorsque on va proposer d'autres propositions, en fait, non dualistes, en fait, de la conscience. Les positions néo-dualistes, comme je vous ai déjà dit, en fait, persistent encore aujourd'hui, et donc il y a des théories qui sont plus ou moins extravagantes, en fait, qui persistent encore aujourd'hui. Je vais donner juste deux exemples. Donc, par exemple, il y a Sir John Eccles, qui a été d'ailleurs prix Nobel. Qui avait proposé dans son ouvrage « Évolution du cerveau et création de la connaissance » que l'âme serait réunie par Dieu au fœtus au troisième semaine après la conception. Donc, vous voyez, il soutenait ce type de position. Et, par exemple, ici, notre position de Popper, selon laquelle, en fait, nous vivons dans trois univers mentaux, en quelque sorte, qui sont tous basés sur un monde matériel. Cependant, en fait, donc le premier monde ici, des choses et des états matériels, mais aussi un monde de différents états de conscience et un monde des connaissances qu'il appelait de plus objectivement, qui sont le monde des opérations mentales, des symboles, par exemple, comme les nombres, les opérations abstraites, mathématiques, etc. Mais c'est un point de vue quand même assez dualiste de l'esprit. Une autre position assez extravagante proposée par Roger Penrose, donc un autre scientifique de la conscience, qui pensait, qui proposait une autre forme de dualisme qui a recours à la physique quantique. En fait, Penrose disait que nos outils de neuroscientifiques ne suffisent pas à donner un langage satisfaisant pour expliquer des phénomènes comme la conscience. Et lui s'était tourné vers la physique. Il a eu recours à la physique quantique, par exemple, pour essayer de chercher une nouvelle formalisation, une opérisation de problèmes de la conscience. Et d'ailleurs, il avait proposé qu'un certain nombre de formations, comme les microtubules, qui se situeraient à l'intérieur des neurones, pourraient transmettre l'influx nerveux nécessaire à la conscience. Bon, aujourd'hui, cette conception n'est absolument pas validée. Et d'ailleurs, lorsqu'elle est soumise à l'épreuve des physiciens quantiques, en fait, ils n'arrivent pas, en fait, à prouver ce type de principe quantique proposé pour expliquer donc la conscience. Mais c'est juste une illustration, en fait, que ici toutes les hypothèses sont permises en quelque sorte dans le domaine. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. En fait, il s'allume de temps en temps. Comme la conscience. En fait, des fois, il s'allume. Ah ben voilà, merci. Voilà, excusez-moi. Donc, après cette démonstration de certaines conceptions néo-dualistes qu'on retrouve aujourd'hui dans la littérature, après il y a des conceptions plus ou moins extravagantes qui sont proposées sur la conscience. La majorité des neuroscientifiques aujourd'hui, du début du XXe siècle, refusent l'idée de cause mentale séparée du monde physique lorsqu'on parle de la conscience. L'hypothèse stupéfiante proposée par Francis Crick, d'ailleurs, dans son ouvrage intitulé comme son hypothèse, l'hypothèse stupéfiante, était de dire que, donc là c'est une citation de Crick lui-même, « Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, l'idée que vous vous faites de votre identité personnelle et de votre libre arbitre ne sont en fait rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et des molécules qui leur sont associées. » Donc ici, d'ailleurs, vous avez une figure qui est proposée par Crick lui-même pour le fonctionnement de certaines connexions qui existent au sein du système visuel primaire. Donc on se fait une idée en fait de ces différentes connexions. Et au sein de cette conception, vous avez aussi des différences subtiles entre les neuroscientifiques. Un exemple ici, le monisme de double aspect, considère qu'une seule matière appréhendée, en fait il y a une seule matière qu'on peut appréhender de deux perspectives différentes. Donc c'est une conception qui est héritée par Spinoza, donc qui considère que nos processus psychophysiques seraient les mêmes qu'on en parle de point de vue physique ou mental. C'est juste une forme de description, un point de vue, un angle par lequel en fait on se projette sur ces aspects. D'autre part, il y a des chercheurs comme Francisco Varela qui parlent de matérialisme émergentiste, qui considèrent en fait que tous les états mentaux sont des processus du cerveau, que ces processus émergent à partir des composantes cellulaires du cerveau, et qu'il y a une forte interaction entre les différents sous-systèmes de cerveau, et donc ils peuvent se interinfluencer mutuellement. C'est vraiment le point de vue émergentiste. Enfin, une science de la conscience est-elle possible ? Et donc, la conception classique sous-jacente à une approche scientifique de la conscience est d'admettre que la conscience est un phénomène réel, biologique, localisé dans le cerveau, et d'accepter l'hypothèse qu'on peut étudier l'effet subjectif par une approche scientifique. Donc on peut soumettre les phénomènes subjectifs à une étude scientifique. Et donc ce que je vais essayer, cette démarche que je vais essayer de vous illustrer donc aujourd'hui. Selon donc deux chercheurs ici, Stanislas Dehaene et Lionel Nakache, les neurosciences cognitives de la conscience vise à déterminer s'il existe une forme systématique de traitement de l'information et une classe d'état d'activité de cerveau qui distingue systématiquement les états que les sujets identifient comme conscients des autres états. Donc la première question, c'est d'identifier déjà des états qu'on va appeler et on acceptera comme des états conscients et des états non conscients et de voir en fait quels sont leurs mécanismes sous-jacents, par exemple. Enfin, Ned Block, philosophe américain, avait proposé que les phénomènes conscients comporteraient au moins quatre aspects centraux. Le premier aspect, c'est la conscience d'accès, ou quand on dit qu'on prend conscience de quelque chose. Dans la conscience d'accès, il y a la représentation du contenu de la conscience et immédiatement disponible, et que une de ses caractéristiques, cette conscience d'accès, le fait qu'on a accédé à un état conscient, c'est la rapportabilité de l'expérience, c'est-à-dire qu'on peut rapporter cette expérience de manière verbale ou de manière non verbale, en fait par différents moyens qu'on peut avoir pour montrer qu'on a accédé à un contenu mental. Cette représentation va après, donc à partir du moment où elle a accédé à la conscience, elle va servir de prémisse pour le raisonnement et peut jouer un rôle dans le contrôle rationnel de l'action et de la parole. Donc le premier, conscience d'accès. Je vais revenir sur ce point puisque je vais me baser pour ma présentation sur la conscience d'accès. Deuxièmement, la conscience phénoménale décrite ici par Netbrock correspond aux aspects qualitatifs et subjectifs de notre expérience. Par exemple, le fait d'avoir une expérience subjective, avoir un frisson musical, regarder un paysage, hein, par exemple, quelque chose qu'on ne peut pas forcément rapporter par des mots. Hein. Donc, ce qui caractérise ici cette expérience phénoménale, c'est la non-reportabilité de conscience et son contenu subjectif. Et donc, ces phénomènes sont distingués par certains chercheurs, comme Leibis ici, sous le terme des qualia, qui correspondent à ces qualités particulières de l'expérience sensible. Alors, là, ici, le problème de qualia également est traité et intégré dans la conception de plusieurs scientifiques, et chacun essaie de résoudre le problème de qualia. Est-ce que qualia est quelque chose de différent, en fait, de premier niveau, etc. Par exemple, dans certains modèles, on considère que finalement, cette conscience phénoménale ne serait qu'un mode de la conscience d'accès, de première conscience d'accès, alors que d'autres considèrent qu'il faut avoir une conscience phénoménale, subjective, et après on accède à la conscience d'accès, vous voyez. Donc là, il y a différents scientifiques se situent différemment par rapport donc à cette conception. Enfin, il y a un autre type de conscience qu'on peut décrire, sur lequel on peut travailler, c'est la conscience réflexive. C'est cette conscience qui nous permet d'inspecter délibérément les cours de nos pensées, de nos actions, d'avoir une espèce de métacontrôle, en fait, de notre propre état inconscient. Et la conscience de soi, chère à beaucoup de neuroscientifiques et philosophes, hein, comme par exemple Damasio, pour qui la représentation de soi confère une certaine unité de notre vie mentale. Et d'ailleurs, pour des chercheurs comme Damasio, la conscience de soi est nécessaire à l'accès à la conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à la conscience si on n'a pas une connexion avec soi, en fait. Et donc là, il y a des théorisations sur qu'est-ce que c'est que le soi, le self, hein, etc. Donc vous avez, voyez, à la base de cette distinction, ici philosophique, quand même différentes théories, et chacun essaie de résoudre en fait l'interconnexion et ces différents niveaux de l'expérience consciente. Alors, les questions que je vais poser, traiter pour la suite de cette présentation seraient concernent la conscience d'accès ou l'accès à la conscience. Et donc c'est ce qu'on a dit, illustré par le fait de prendre conscience de quelque chose. Et les questions qu'on va essayer de se poser, c'est quelle différence de traitement mental distingue un stimulus conscient d'un stimulus inconscient, par exemple. Deuxième question à laquelle on va essayer de répondre, on va donner plutôt une illustration, c'est quelle est la signature de l'accès à la conscience. Est-ce qu'on peut trouver une signature neurobiologique de l'accès à la conscience? D'autre part, une question qu'on peut se poser, par les moyens d'exploration du cerveau et d'études des opérations mentales dont on dispose aujourd'hui en psychologie et en neurosciences, peut-on suivre le cheminement d'une information dans le cerveau et déterminer à quelle étape elle devient consciente? Donc suivre ces différentes étapes. Et enfin, quelle architecture cognitive et cérébrale sous-tend ce rapport conscient? Donc c'est un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre avec les méthodes dont on dispose aujourd'hui en psychologie cognitive. Il faut distinguer cette étape d'accès à la conscience des différents états de conscience, ce qu'on appelle état de conscience au niveau de vigilance. Hein, quand on dit on va prendre conscience perdre conscience, par exemple. Hein. Et donc, les différents états de vigilance, par exemple, veille, sommeil, anesthésie, coma, état végétatif, etc., sur lesquels on va revenir, vont poser également pour nous les mêmes questions. C'est quelle est la signature neurale de ces états de vigilance? Quelle architecture cognitive et cérébrale sous-tend ces états? Quelles sont les caractéristiques de la perception d'un stimulus dans ces différents états de vigilance? Est-ce qu'on peut percevoir, par exemple, un stimulus sans être tout à fait conscient, ou lorsqu'on est dans des états de conscience particuliers? Alors, avant de répondre à ces questions, je reviens sur ce support de ces opérations mentales qui est notre cerveau, qui est un organe d'une extraordinaire complexité, impossible de résumer ici avec une seule phrase. Juste pour vous illustrer, au niveau macroscopique, le cerveau, en fait, on peut décrire des grandes régions de cerveau, les grandes structures, par exemple, les différents lobes cérébraux, par exemple, ici, le lobe occipital, qui va recevoir, par exemple, la perception visuelle en premier, et puis après, va la distribuer sur les autres parties du cerveau, le lobe temporal, le lobe pariétal, donc le lobe frontal, qui est d'ailleurs est d'une évolution, la maturation la plus tardive au cours du développement. Son développement, par exemple, de lobe frontal n'est pas achevé encore à l'adolescence. En fait, il est mature très très tard. Et d'ailleurs, on dit que c'est à partir de lorsque cette maturation commence à s'achever vers l'adolescence que tout le cerveau va se réorganiser de nouveau. En fait, va organiser ses fonctions. C'est d'ailleurs une explication pourquoi un certain nombre de troubles neuropsychiatriques apparaissent à l'adolescence, spécifiquement dans tous les pays du monde, en fait, de manière extrêmement constante. C'est parce que le cerveau se réorganise exactement à cette période-là. Mais vous voyez, ces différentes structures cérébrales vont avoir une maturation spécifique au cours du développement. On peut décrire les deux grands hémisphères cérébrales, dont chaque hémisphère va avoir sa manière aussi de traiter l'information. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que de plus en plus que certainement les fonctions cognitives ne sont pas aussi localisées comme ça dans une hémisphère, mais par contre que chaque hémisphère va avoir ses propres stratégies de traiter l'information. Des structures internes, donc qu'on peut décrire. Tout à l'heure, je vais vous parler d'une petite structure qui s'appelle le thalamus sous-cortical. Et d'autre part, il faut savoir que ces différentes structures vont être reliées par des grands faisceaux de fibres qu'on peut d'ailleurs visualiser aujourd'hui par des méthodes très très modernes d'imagerie cérébrale. On peut visualiser comment ce cerveau est connecté même lorsque le bébé est né. En fait, qu'il y a déjà un précablage. En fait, que toutes ces structures sont déjà connectées. Et avant, avec les autres, techniques d'imagerie cérébrale, on n'avait pas les moyens d'accéder à ça dans le cerveau qui n'est pas lésé. Alors qu'aujourd'hui, on peut, c'est vraiment des techniques extrêmement récentes, en fait, qui existent, avec lesquelles on peut visualiser ces voies qui relient l'ensemble des structures cérébrales et on peut les voir fonctionner. Et donc, au niveau cellulaire, il y a différents types donc de neurones des cellules gliales en fait qui composent donc le cerveau et qui vont se connecter entre elles. Donc par exemple, il y a une estimation selon laquelle il existe dans le cerveau à peu près 100 milliards de neurones et que chacun de ces neurones va établir un nombre incroyable de synapses. Donc il y a des gens qui ont calculé qu'il y a 1 milliard de milliards de synapses en quelque sorte qui se réalisent dans le cerveau. Donc vous imaginez la complexité en quelque sorte extraordinaire, en fait, qui sous-tend le fonctionnement du cerveau. Et, bien entendu, je fais soustraction ici de l'ensemble de la mécanique chimique, en fait, à l'intérieur, par lequel se réalisent également ces connexions entre les neurones, etc., et qui est également d'une extrême complexité. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que les méthodes d'étude du cerveau en action dont on dispose aujourd'hui, qui ont été principalement donc mises au point dans les années 90 grâce à l'avancée d'un certain nombre de découvertes sur les rayonnements et l'informatique, par exemple, ont vraiment révolutionné nos connaissances sur le cerveau et qui, aujourd'hui, continuent de révolutionner nos connaissances et nos moyens de travailler en psychologie aussi sur nos capacités mentales et sur vraiment de revoir des théories entières, en fait, avec lesquelles on travaillait en psychologie, parce qu'aujourd'hui, on dispose des moyens, justement, d'observer ce cerveau en action et la réalisation des opérations mentales au niveau du cerveau. Donc, ces techniques, c'est, par exemple, la tomographie par émission de positrons, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, magnéto-électro-encéphalographie, et aussi, on peut souligner, l'électroencéphalographie, qui est une technique beaucoup plus vieille, plus ancienne, qui date des années 1920 à peu près, si je me trompe pas, donc découverte par Hans Berger, qui, en fait, à la différence, par exemple, des techniques comme l'IRM fonctionnel, par exemple, va avoir une résolution temporelle extrêmement fine. Donc, on va pouvoir vraiment capter la réalisation des opérations mentales à vraiment à la milliseconde de leur réalisation. Vous voyez, finalement, l'électroencéphalogramme est extrêmement sensible, hein, à la réalisation des opérations mentales. Donc, elle va être extrêmement utile à, éventuellement, à suivre, en fait, comme on va le voir plus loin, à suivre la réalisation, le cheminement de l'information, et donc de détecter des processus conscients et inconscients, par exemple. Hein. Alors, avant donc de donner des exemples précis donc de ce type de traitement conscient-inconscient, je vais souligner juste deux points convergents entre un ensemble de travaux en neurosciences cognitives et en psychologie. C'est que la conscience n'est pas localisée dans une structure cérébrale. C'est-à-dire que malgré le fait que souvent on laisse entendre que telle fonction serait dans telle partie du cerveau, hein, parce qu'on sait que certaines fonctions cognitives sont plus ou moins localisées dans certaines parties du cerveau, comme l'aire de Broca, l'aire de langage par exemple, parce qu'on sait que s'il y a une atteinte de cette zone, en fait, la personne va perdre la capacité de langage parlé, par exemple. Hein? On sait que, par contre, quand on parle de conscience, que la conscience n'est pas localisée dans une seule structure cérébrale, mais qu'elle va impliquer un échange, une résonance, un fonctionnement en résonance entre plusieurs régions de cerveau. Et, bien entendu, il y a quand même un certain nombre de structures qui sont plus importantes, en quelque sorte, pour l'accès à la conscience. Par exemple, ici, la formation réticulée et le tronc cérébral, en fait, qui sont des formations, ici, qui sous-tendent notre état de vigilance. C'est-à-dire que si cette zone n'est pas fonctionnelle, on n'est pas dans un état d'éveil, hein, si vous voulez. Donc, cette région sous-tend l'alternance veille-sommeil, par exemple. La deuxième région qui est importante, puisque c'est une région sous-corticale qui est une région relais, c'est le thalamus, hein, que certains décrivent comme la gare de tirage de l'information qui provient de reste de corps et qui va être dispatchée en quelque sorte dans les différentes parties du cerveau. Donc c'est une zone très 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 importante de relais, hein, de réception et de relais de l'information. Et le cortex cérébral, donc la fine couche qui découvre donc notre cerveau, en fait, dans l'importance, est crucial pour toutes les formes de perception, de contrôle de mouvement volontaire, par exemple. Le deuxième point de convergence, c'est le fait que la conscience serait associée à un système de supervision centrale, qu'il a un système à capacité limitée. Ça, c'est des points sur lesquels je vais revenir. Qui nécessite des échanges constants ascendants et descendants, et que l'espace de travail conscient constitue un espace de synthèse, de maintien, de partage des données et permet la diffusion des informations pertinentes. On va amplifier les informations seulement pertinentes, en fait, pour l'organisme. Donc, je vais revenir sur ces notions. Donc, juste pour se représenter cet espace de travail global soutenant la conscience, donc à capacité limitée, hein, comme on a dit, souvent a été représenté comme une scène de théâtre, sur laquelle vous imaginez la scène de théâtre, il y a le projecteur qui va se polariser sur une partie de la scène. Et donc, en fait, seulement une partie de la scène va être éclairée. Et donc, il n'y a pas de... En fait, on peut déplacer le projecteur d'une scène, d'une place de la scène, de l'autre place de la scène, et, en fait, tout ce qui est autour... En fait, va être peut-être traité, mais on n'en aura pas forcément conscience puisqu'on sera fixé sur les informations qui sont sur le projecteur. Voyez, et donc comme ça, notre capacité aussi de changer le focus, hein, attentionnel et de conscience, mais que en fait, ça explique d'emblée un certain nombre de propriétés de l'état conscient, c'est-à-dire que aussi de ses capacités limitées, c'est qu'on va éclairer une zone de la scène et tous les autres zones vont être à l'attente, et plus on s'éloigne de la scène, en fait, moins on aura de la chance d'éclairer, en quelque sorte, certaines informations et de les amplifier, d'en prendre conscience. Et donc, vous voyez, lorsqu'on garde en tête cette métaphore de la scène de théâtre, et en fait de ce projecteur, en fait, qui éclaire certains points de la scène, on peut aisément essayer de se représenter un certain nombre de modèles, comme ici, par exemple, un des premiers modèles présentés de cet espace de travail conscient présenté par Bernard Barthes, qui considère, en fait, vous voyez, ici, vous avez l'espace de travail conscient qu'il décrit, en fait, c'est comme le centre de la scène, en fait, sur lequel éclaire le projecteur, et toutes les autres sous-systèmes, pardon, en dehors, en fait, de ce système, qui pouvait être, par exemple, des systèmes de traitement attentionnel, de langage, et d'autres opérations mentales. En fait, qui chacun va fonctionner de son côté. Et de temps en temps, il y aura un certain nombre d'informations qui vont se synchroniser leur activité et qui vont ensemble, donc, agir pour rentrer dans l'espace de travail conscient. Donc, en fait, de rentrer sous le feu de projecteur, en quelque sorte. Et alors que, des fois, l'information traitée par un certain nombre de sous-systèmes peut demeurer inconsciente. C'est-à-dire, on peut aussi admettre qu'on peut avoir des traitements qui n'accèdent jamais vraiment à la conscience, mais qui sont présents, parce qu'ils ont été traités, mais qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le focus de la conscience. Hein. Et donc, je vais vous donner des exemples tout à l'heure de ce genre de traitement. Et donc, un modèle moderne inspiré par le modèle de Barthes aujourd'hui, celui de Dehn, Changeux et Nakache et leurs collaborateurs. Donc, c'est le modèle de l'espace de travail conscient, c'est un modèle français, donc, qui admet justement qui décrit justement cet espace de travail conscient, hein, cet espace de synthèse entre les informations en fait conscientes, et le fonctionnement des différents systèmes en périphérie qui peuvent permettre ou non à ce qu'un stimulus devient conscient ou non. Et donc, en fait, ce modèle va essayer de décrire différents types de traitements, par exemple des traitements subliminaux, préconscients, conscients, expliquer pourquoi certaines informations ne deviennent jamais conscientes, en fait, pour notre cerveau. Et donc, en fait, je vais revenir sur ce modèle, mais avant cela, je vais vous donner un certain nombre d'exemples sur des informations, des traitements inconscients, hein, par exemple, qui ont été décrits d'abord par des cas en neuropsychologie et des cas cliniques, des patients, et d'autre part, des recherches, en fait, qui sont menées chez des personnes sans troubles neurologiques ou psychopathologiques. Ah, donc, les questions qu'on va poser, justement, à la base de ce modèle et avec ces exemples, ce serait, en fait, les questions qu'on avait posées tout à l'heure, c'est pourquoi certaines informations deviennent-elles conscientes ou pas? En fait, ce modèle va essayer de répondre, à donner des réponses à cette question et des démonstrations empiriques parce que ce modèle est entièrement basé sur des recherches, en fait, qui sont menées en neurosciences cognitives, en psychologie et basées aussi sur des études qui proviennent, en fait, des cas cliniques en neuropsychologie. Et donc, en fait, qui nous permettra de répondre des questions dont on a listé tout à l'heure. C'est quelle différence entre il y a un traitement mental conscient et inconscient, quelle est la signature de l'accès à la conscience, et peut-on suivre ces changements, etc. Donc, je vais commencer par donner donc des exemples des traitements de l'information sans conscience et par l'apport de la neuropsychologie qui va essayer de nous montrer plutôt une dissociation entre conscience et performance. On peut être performant sans être conscient. Hein, c'est ça qui est un des premiers paradoxes qu'on va essayer d'expliquer. Tout d'abord, un exemple classique provenant de la neuropsychologie de cette perception sans conscience vient d'un certain nombre de patients qui ont ce qu'on appelle une vision aveugle. C'est-à-dire qu'à la suite d'une lésion du cortex visuel, ici donc en arrière du cerveau, de cortex visuel primaire, les patients souffrent d'une perte de la vision alors que leurs yeux ne présentent aucune pathologie. Donc vous voyez, ne sont pas des personnes aveugles, c'est-à-dire leurs yeux voient, mais en fait, dans un de leurs champs visuels, ils ont perdu la vision consciente, en quelque sorte, des stimuli. Donc la question qu'ont posée un certain nombre de neuropsychologues, comme ici Popel, Held et Douglas Frost, est-ce que ces patients sont capables d'avoir des performances visuelles inconscientes, malgré le fait qu'il ne voit pas dans leur émichon, un de leurs émichons. Alors, vous savez, ici, par exemple, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, une partie du cortex visuel, par exemple, droite, va renvoyer des informations à l'émichon gauche. En fait, si c'est, les informations sont croisées et qu'en fait, ce qui est reçu par le cortex visuel primaire gauche va envoyer donc des informations à l'émichon droit. Et donc, en fait, pour répondre à cette question, est-ce que ces patients peuvent avoir une vision, une perception visuelle inconsciente? Donc, on les avait soumis, donc ces neuropsychologues les ont soumis à une expérience très simple. En fait, ils ont demandé à ces patients de regarder l'écran d'un ordinateur sur lequel étaient projetés, d'un côté ou de l'autre de leur émichon, des flashs, des stimuli visuels, des stimuli lumineux. Et d'abord, on leur a posé la question. Donc, par exemple, on leur demande dans leur émichon gauche, par exemple, est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, ça, c'est l'émichon intact, si vous voulez. Et là, le patient va dire, je vois bien qu'il y a un signal lumineux qui apparaît. D'accord? On leur montre ce signal lumineux dans l'autre émichon. On leur pose la question. Et donc, là, le patient va dire, je ne vois rien de tout. Il n'y a rien de tout qui est projeté ici. Donc, il ne voit pas. Et après, on lui a dit, mais maintenant, d'accord, donc vous vous dites que vous ne voyez pas. Ce qu'on va faire, vous allez participer à une étude dans laquelle on va vous présenter, comme ça, ces petits flashs lumineux. Et il suffit juste de tourner la tête là où vous pensez qu'il y a des flashs. Et ce que les patients ont fait, et de manière extrêmement étonnante, ce que les chercheurs ont recueilli comme données, c'est que le patient va systématiquement diriger son regard vers les points lumineux qu'il ne voit pas consciemment. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir de très bonnes performances dans le champ visuel lésé, en quelque sorte, alors qu'il n'a pas conscience de voir les stimuli, mais il a une perception inconsciente, en quelque sorte. Il ne tourne pas sa tête au hasard, mais que, de manière inconsciente, il est capable de percevoir ces stimuli lumineux. Donc, c'est vraiment une évidence que, en fait, il existe une sorte de perception inconsciente dans les méchants qui dysfonctionne chez ces patients. Et en fait, c'est une illustration de cette première illustration de cette dissociation entre conscience et performance. Et donc, c'est un phénomène qui est appelé blind sight, qui est un terme proposé par Larry Van Krantz, et a été répliqué plusieurs fois. Par exemple, selon différentes manières de recueillir l'information. Par exemple, lorsqu'on demande des patients non pas de tourner la tête, comme dans l'étude Princeps, mais de porter du doigt vers une source lumineuse. Donc le patient pointe de doigt. Et donc là, on a répliqué l'étude. D'autre part, on va lui demander d'essayer d'attraper des objets présentés dans les deux émichons. Ou d'appuyer sur un bouton lorsqu'une source lumineuse apparaît. Ou de discriminer des objets visuels, hein, par exemple. Et donc, on voit que ce trouble, ces performances sont spécifiques aux patients avec une cécité corticale, donc, et il n'est pas observé chez des personnes avec des pathologies des yeux. Quand la personne a une pathologie des yeux, elle ne peut pas avoir cette perception inconsciente. Alors que chez des personnes qui ont perdu donc la capacité de voir avec leur cortex visuel primaire, en quelque sorte, ils peuvent avoir une perception résiduelle de manière inconsciente. Donc il s'agit vraiment d'un trouble de la perception consciente des informations et non pas d'un trouble visuel en soi. En fait, on s'est posé la question, est-ce que cette perception inconsciente peut exister pour d'autres stimuli? Parce que vous voyez, les flashs lumineux, c'est quand même assez basique comme stimuli. Et en fait, il y a des personnes qui ont rapporté des cas dans lequel, en fait, leurs patients devaient reconnaître des stimuli beaucoup plus complexes comme des émotions sur des visages. Et en fait, ils ont proposé à leurs patients ici, ces neuropsychologues ont proposé aux patients de discriminer deux visages dont un exprime une émotion. Par exemple, ici, l'émotion de l'effroi ou de peur. En fait, et ça, c'est une expression d'un visage neutre, par exemple. Et là, de nouveau, On enregistre aussi également des potentiels évoqués, c'est-à-dire en fait des ondes cérébrales qui sont liées à la perception de ces visages. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que déjà, vous voyez, il y a une grande similitude qualitative entre la perception de ces émotions, de ces visages dans les deux émissions visuelles, alors que le patient ne les voit pas consciemment. Et qu'en fait, on voit bien qu'il part les performances, en fait, parce qu'il dit, je ne vois pas, en fait, le visage, mais on lui dit, mais tout de même, est-ce que lequel des deux exprime des émotions, par exemple? Vous voyez, c'est juste, de nouveau, une consigne assez simple, mais on voit bien que la personne va pointer sur des visages qui expriment des émotions, alors qu'il n'a pas, il ne perçoit pas consciemment, en fait, ces stimuli. Donc, en fait, on voit bien qu'il existe également une reconnaissance des émotions faciales dans la vision aveugle. Donc, ce qui est donc extrêmement intéressant. Et donc, ceci a été montré donc par des études qui montrent justement par des méthodes donc de électroencéphalogramme par exemple, des corrélats électrophysiologiques de la reconnaissance des émotions faciales dans la vision aveugle, c'est qu'on voit la modulation des potentiels évoqués par les émotions justement dans la vision aveugle. Donc ça, c'est aussi d'autres patients qui pourtant ont des lésions donc dans leur cortex visuel. Et donc, en fait, cette reconnaissance inconsciente des émotions serait liée à l'activité d'une voie sous-corticale. En fait, ça, c'est des études d'imagerie cérébrale qui se sont posées la question, mais comment fait le patient pour avoir cette vision inconsciente, en fait, et alors que le cortex visuel n'est pas fonctionnel, donc lui ne transmet pas l'information. Et donc, en fait, ce qu'ils ont vu, donc vous voyez, par exemple, c'est la voie classique qui passe par le cortex visuel primaire, en fait, ici, de la rétine, cortex visuel primaire, il va dispatcher l'information, en fait, par une voie qu'on appelle la voie ventrale, en fait, au niveau du cerveau, vers les autres aires cérébrales. En fait, ce qu'ils ont montré ces chercheurs ici, donc vous voyez en 2002, c'est que, en fait, cette information va passer par une autre structure, par une autre voie sous-corticale, en fait, qu'on appelle colliculaire d'ailleurs, en fait, et donc elle va activer des zones au niveau du cerveau qui sous-tendent le traitement de nos émotions primaires, comme les zones qu'on appelle ici, les zones sous-corticales ici, qu'on appelle les amygdales, donc au niveau bilatéral. C'est-à-dire que la personne ne voit pas consciemment les émotions. Par contre, les zones au niveau du cerveau, les zones sous-corticales au niveau du cerveau, qui traitent pour les émotions, sont déjà activées. L'organisme est déjà en alerte, parce qu'il a perçu inconsciemment ces émotions. Donc on pense que cette voie a dû être sélectionnée par l'évolution, en fait, par rapport à son importance pour la survie, tout simplement, de l'organisme, et donc, en fait, qui a cette capacité, donc, de donner des signaux d'alerte, en quelque sorte, inconsciente de la perception des émotions. Et donc, en fait, on a pu démontrer également ce type de perception inconsciente chez des personnes saines, donc, qui n'ont pas de lésions, et à qui on a présenté des visages de manière masquée. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes aujourd'hui en psychologie expérimentale qu'on peut utiliser. Et en fait, comme par exemple ici, on va présenter d'abord un visage, vous voyez, qui exprime une émotion. Et de manière extrêmement brève, 33 millisecondes, c'est vraiment le temps d'une flash. Et après, on va tout de suite présenter un second visage, neutre cette fois-ci, qui n'exprime aucune émotion, qu'on va présenter beaucoup plus longtemps. Et en fait, on sait que le deuxième visage va servir de masque au premier visage. Donc en fait, la personne n'a pas la perception, n'a pas la conscience d'avoir perçu le premier visage, si vous voulez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on regarde, on compare l'activité cérébrale pour des visages vus consciemment et les visages non vus consciemment parce qu'à masquer, on voit bien également que alors que les visages sont masqués, c'est-à-dire la personne ne peut pas les voir de manière consciente, en fait, leur présentation est susceptible d'activer également les zones sous-corticales de traitement des émotions, comme l'amygdale. Donc, en fait, on montre ici aussi que c'est quelque chose qui n'est pas lié seulement à la pathologie, mais c'est vraiment un mécanisme de perception non consciente, en fait, des émotions dont on dispose que la nature a sélectionné, en fait, pour notre fonctionnement mental. et que cette voie corticale, donc on vous dit, serait sélectionnée donc par l'évolution et donc aurait donc le rôle de survie d'une espèce. Et donc ici une autre démonstration ici avec la présentation en fait de stimuli beaucoup plus subtils, juste avec les yeux par exemple ici, et on voit bien que les yeux eux-mêmes sont aussi capables d'activer en fait ces zones cérébrales des émotions. Donc, après la question dont sont posés les chercheurs, comme ici Nakash Gaillard, avec l'équipe de l'équipe de Stanislas Dehaene, c'est est-ce que, en fait, les visages, on comprend, en fait, c'est quand même une information, le visage, le prénom, c'est quand même des informations d'une très haute valeur, de très grande science. Et en fait, est-ce que par contre, il existe ce type de perception inconsciente pour un autre type d'information, comme les mots, quand même, qui véhiculent des représentations un peu plus abstraites. Et donc, en fait, ils ont montré aussi que la présentation des mots de valence émotionnelle, présentée de manière masquée, va susciter également l'activation des structures sous-corticales impliquées dans le traitement des émotions. Donc, par exemple, ici, si on présente le mot « danger » versus le mot « cousin », donc, en fait, voyez, quand on les présente de manière masquée, on voit que le mot « danger » va aussi activer, donc ici, là, ici, ces petits points qu'on voit ici, c'est les points d'activation, en fait, sous-corticales qu'on enregistre avec des électrodes qui sont implantées, en fait, dans ces structures pour certains types de patients qui sont en phase préopératoire, par exemple, et chez qui on peut se permettre, en fait, d'implanter ces électrodes et d'observer directement, en fait, dans la zone cérébrale, est-ce qu'on observe un signal de cette perception inconsciente des émotions. Enfin, ce type de recherche sur cette perception inconsciente corrobore d'autres domaines de la neuropsychologie, notamment des domaines de la reconnaissance des visages. Et ici, un déficit qui est bien connu en neuropsychologie, qu'on appelle la prosopagnosie. C'est des personnes qui ont perdu la capacité de reconnaître des visages familiers. En fait, là, cette fois-ci, vous voyez, à la différence donc des patients avec une vision aveugle, ces patients n'ont pas perdu un champ de leur vision, mais ils ont perdu une faculté particulière de la vision, qui est celui de reconnaître des visages. Et donc, en fait, il faut savoir que leur trouble de reconnaissance de visage se limite uniquement à la perception visuelle. Parce qu'en fait, ils peuvent reconnaître les personnes par la voix, par la démarche, par d'autres caractéristiques, hein, mais par des attributs vestimentaires, par d'autres attributs. Mais par contre, juste comme ça sur la photo, sur le visuel, ils n'arrivent pas à les reconnaître. Et en fait, c'est quelque chose qui est dû à un certain nombre de lésions qui sont illustrées ici, en fait, qui sont assez bien connues aujourd'hui, donc qui correspondent à des zones de perception, donc de visage. Donc en fait, si vous montrez à ces personnes des photos de personnalités connues ou de leurs proches, etc., des visages, et vous contrastez avec des visages non connus, la personne va toujours vous dire « non, je ne reconnais aucune de ces personnes ». Hein, vous lui montrez des visages connus, il va dire non, celui-là, je ne l'ai jamais vu. D'accord. Et donc, en fait, il a deux chercheurs ici, Damasio et Tranel, par exemple, en 1985, vous voyez, c'est une ancienne étude, qui d'ailleurs a été repliquée à Pléa plusieurs fois, avec d'autres méthodes. Ils ont eu l'idée d'utiliser une technique basée sur l'enregistrement de la réponse électrodermale, en fait, qui est un reflet, cette réponse électrodermale est le reflet de notre réponse émotionnelle automatique. On met des petits capteurs, en fait, sur les bouts de doigts. Et donc, en fait, lorsqu'on a une émotion automatique, il a les glandes sudoripares de la peau qui vont émettre, en fait, des signaux. En fait, c'est de la transpiration, de sudation. Et donc, en fait, on va pouvoir enregistrer cette réponse automatique, émotionnelle. Aujourd'hui, on peut faire ça aussi avec d'autres techniques. Hein. Ça a été fait avec l'électroencéphalogramme, par des chercheurs français, d'ailleurs, Renaud Lesèvre. Donc, en fait, par d'autres chercheurs. Et donc, en fait, pour voir, est-ce que, lorsqu'on va présenter des photos de visages à des personnes, des visages familiers et non familiers, quand les personnes disent non, je ne connais pas cette personne, est-ce que quand même ils ont une réponse émotionnelle différente? Et en fait, c'est exactement ce que les résultats montrent, que les patients ne reconnaissent pas consciemment les personnes qu'on leur présente, mais ils ont une réponse émotionnelle différente lorsqu'ils voient des visages connus par rapport à lorsqu'ils voient des visages inconnus. Ça montre aussi qu'ils ont une perception inconsciente, en quelque sorte, émotionnelle, et une reconnaissance inconsciente, en fait, de ces visages, Et ces informations n'arrivent pas à la conscience, mais la personne les a perçues. Hein, donc, vous voyez, ce sont des faits aujourd'hui très, très repliqués, en fait, dans en neuropsychologie. Et enfin, une dernière illustration avec l'héménégligence, qui est une maladie de la conscience dans ce sens qu'elle va se caractériser par la perte de la conscience de l'existence du côté gauche. Donc, la personne ignore tout son côté gauche. Elle va se raser d'un seul côté seulement, elle va, par exemple, vous voyez, c'est un autoportrait ici d'une personne héménégligente, elle va se dessiner d'un seul côté, elle va ignorer complètement toutes les informations qui sont de son côté gauche. Et donc, par exemple, elle va complètement oublier d'utiliser son bras gauche ou sa jambe gauche. Pourtant, elle n'est pas paralysée. C'est vraiment une négligence de tout le côté gauche. En fait, c'est quelque chose qui survient donc à la suite d'un certain nombre de lésions cérébrales. Hein, par exemple, une rupture d'anévrisme ou en fait d'autres lésions. Donc, sur l'hémisphère droite, donc l'hémisphère contralatéral. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a observé ? C'est que pour ces patients, également, on a observé cette dissociation entre la conscience et la performance. Alors, ce sont des études, par exemple, de John Marshall et Peter Halligan, qui ont publié d'ailleurs après ces études dans la prestigieuse Nature Nature en 1988. Et donc, en fait, ils ont montré à ces personnes héménégligentes dans leur hémichamp aveugle, en fait, dans lequel ils ne voient pas, ils ont montré, en fait, deux maisons. Ils ont montré, la première question, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux maisons? Et donc là, la personne va dire, pas du tout, je ne vois pas de différence. Et en même temps, on leur dit, mais dans laquelle de ces deux maisons vous voulez habiter? Et là, les personnes vont systématiquement dire, dans la maison du bas. Donc vous voyez, à partir de là, vous voyez qu'il y a également, en fait, un choix non conscient, en fait, un choix conscient, mais à la base des informations inconscientes, hein, si vous voulez, qui était faite par le patient. Donc, il y a beaucoup de donc démonstrations. Et en fait, lorsqu'on demande au patient d'expliquer ce choix, donc il ne sera pas forcément capable de l'expliquer. Il ne sait pas pourquoi. Mais il va quand même vous raconter une histoire parce que il faut savoir que ça c'est une chose sur laquelle peut-être on peut revenir dans la discussion. Mais une des propriétés de notre fonctionnement conscient est sa capacité de se raconter des histoires. C'est-à-dire qu'en fait, ces patients, lorsqu'ils ne voient pas les visages ou ne reconnaissent pas des visages ou ne sont pas conscients en fait de la prise perceptive de l'information qu'ils ont, ils vont quand même fabriquer des histoires. Ils vont quand même fabriquer une histoire autour de ça et donc ils vont chercher avec les capacités qu'ils ont en fait à donner des explications en fait qu'ils vont prendre pour réalité en fait mais qui sont basées en fait sur des processus inconscients. Concernant les états de vigilance, vous voyez ici, je voulais aussi vous montrer un exemple très intéressant sur la perception inconsciente pendant le sommeil. Donc là ici, c'est des enregistrements qui ont été faits il y a quelques années avec l'électroencéphalogramme pendant le moment où la personne dort. Donc là, elle est en phase de sommeil lent par exemple. Et donc, en fait, on voit que lorsqu'on va présenter à cette personne juste des sons, par exemple des sons fréquents et des sons rares, vous voyez, deux types de sons. Et donc, en fait, la personne va pouvoir distinguer les sons rares. Donc, en fait, il fait un traitement différentiel de ces deux sons, en fait, qui est illustré ici par le fait que les sons différents vont susciter une composante ici d'une autre amplitude, en fait, de plus grande amplitude par rapport à des sons très fréquents, qui sont habituels. Et donc, on voit bien, alors qu'on sait, si vous voulez, que ce type de composante, comme ici, on l'appelle la P300, parce qu'il y a d'amplitude positive dans les 300 millisecondes après la perception de stimulus, en fait, cette composante est quand même un reflet des processus attentionnels. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte d'allocation attentionnelle quand même à ce stimuli, alors que la personne est dans un état de vigilance quand même réduite, parce qu'elle dort. Hein. Et on sait, en fait, qu'il y a certains réseaux pariétofrontaux, certains réseaux au niveau du cerveau qui diminuent leur activité pendant le sommeil, mais qui gardent quand même une certaine activité résiduelle et donc qui permettent à la personne quand même de rester alerte à un certain nombre de stimulations. Il n'est pas conscient par contre de les recevoir. Et en fait, encore plus intéressant, c'est que lorsque pendant les différentes phases de sommeil, ici dans le sommeil paradoxal par exemple aussi, le sommeil dans lequel, pour certains, apparaîtrait le rêve et qu'on a des mouvements oculaires rapides, hein, par exemple, la personne peut réagir également à l'écoute de son prénom alors qu'elle dort. Elle ne l'entend pas consciemment. Par exemple, si vous pendant, ça c'est une étude qui a été faite en utilisant 8 prénoms différents dans le prénom de sujet. Et en fait, la personne, elle dort et on va l'appeler par son prénom. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que quand on l'appelle par son prénom, quand on dit son prénom, ça suscite, hop, vous voyez une onde cérébrale ici en rouge, plus importante, comme quand elle, on est éveillé. Le prénom, c'est vraiment une invitation à la communication. C'est un stimulus extrêmement fort, extrêmement saillant pour nous. Par exemple, les bébés, également, vers l'âge de 4-5 mois, sont extrêmement réactifs aussi quand ils entendent leur prénom. Hein, par exemple, vous voyez, c'est une information de très très forte saillance. Et on sait que les personnes sont sensibles à ce type de situation, d'information, même pendant le sommeil, et ils soucient de manière inconsciente, en fait, quand ils dorment. C'est intéressant, quoi. Ici. Et donc, ceci, d'ailleurs, dans les différentes phases de sommeil. Donc, en fait, c'est de nouveau l'activité résiduelle donc de ces réseaux frontaux pariétaux, en fait, qui restent et qui s'étendent, en fait, qui s'étendraient certainement, en fait, ce type de traitement inconscient. Et donc, on peut suivre, donc, ce que je voulais juste illustrer avec ces diapositives, c'est qu'on peut croiser des méthodes d'électroencéphalogramme, hein, comme celles que j'ai vues, je vous ai montrées, avec des méthodes d'imagerie cérébrale où on va voir la localisation des processus, et on peut voir justement quels sont les réseaux qui s'activent. On peut superposer les techniques, et ça, c'est vraiment extrêmement informatif aussi, sur ce qu'on peut connaître sur les états conscients et inconscients. Le mot radio, de manière extrêmement rapide, subliminal, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le traiter de manière consciente. Les personnes vont vous dire « Non, non, je n'ai jamais vu ce mot, je n'ai rien vu à l'écran, je n'ai pas vu de mot. » En fait, par contre, le cerveau, il l'a vu. C'est-à-dire il va activer ici une petite zone au niveau de ses cerveaux, qu'on appelle, c'est une petite zone qui est représentée ici, occipito-temporale, qui est une zone de la reconnaissance visuelle, de la forme visuelle du mot. D'ailleurs, lorsque les personnes ont cette zone lésée, ils n'arrivent plus à lire les mots. Ils sont atteints d'un trouble neuropsychologique qu'on appelle l'alexie pure. Ils n'arrivent pas à lire les mots. Et donc, en fait, ce qui est très étonnant, c'est que la personne dit « je n'ai pas vu son mot de manière consciente », mais son cerveau, il l'a déjà vu, il a déjà activé cette petite zone, la reconnaissance visuelle de la forme de mot. Mais pas plus, il n'a pas activé plus. Donc, ce qu'on voit ici, vous voyez, qu'il a cette zone qui s'active, ça, ici, d'un côté. Ici, vous avez le traitement subliminal. Donc, vous voyez, il a l'activation de cette zone, mais rien d'autre. L'information ne se diffuse pas plus loin. Alors qu'en fait, lorsque vous avez une perception consciente au niveau des mots, l'information va se diffuser dans d'autres parties du cerveau. Et quand on suit progressivement, on augmente l'intervalle, si vous voulez, de ce masque qu'on va mettre sur le mot. On va augmenter l'intervalle de traitement du mot. Et on va voir que plus on augmente ce seuil de l'accès à la conscience, plus l'information va se diffuser progressivement, elle va atteindre des zones de synthèse après, hein, jusqu'à ce que ça devienne une expérience en quelque sorte perceptive beaucoup plus complexe, et on va reconnaître le mot, on va le relier à nos souvenirs, etc., etc. Mais qu'en fait, vous voyez, il y a une gradation qui peut se produire. Et donc ici, par exemple, dans son livre, Les neurones de la lecture, Stanislas Duhaine a montré ici une schématisation comme ici, des différentes zones de la lecture qui aujourd'hui sont assez bien décortiquées. En fait, de la perception visuelle, de la forme visuelle de mots, traitement du sens ici par les régions temporales, des zones d'intégration ici et comment en fait on arrive à des représentations plus abstraites des mots jusqu'à leur articulation, par exemple. En fait, vous voyez ici ce qu'on peut appeler les voies de la lecture. Mais que, vous voyez, entre un traitement inconscient qui reste assez localisé par certaines zones et un traitement qui devient conscient, il est extrêmement diffusé, en fait, dans le cerveau et amplifié. Et en fait, si on revient dans le modèle initial de l'espace de travail conscient, en fait, on peut avoir l'illustration comment cette information devient consciente. En fait, selon ce modèle donc, de Haine et Changeux et leurs collaborateurs, pour prendre conscience d'une information, il faut à la fois que l'espace de travail conscient soit dans un état approprié, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en état de veille, et que l'information sélectionnée envahisse l'espace de travail conscient. On va voir par quel type de processus. Donc il faut que ce soit dans un état, parce que vous voyez, tous les processus inconscients que je vous ai présentés, finalement, ils ne sont pas rentrés forcément à l'état de conscience. Ils sont restés dans la périphérie. Et en fait, il a le traitement subliminal, préconscient, et conscient, après, on va voir qu'il se caractérise avec une diffusion d'informations progressives, différentes, entre les différentes zones cérébrales. Et en fait, Pourquoi certains processus échapperaient donc à la conscience? Le premier cas de figure, c'est que certaines représentations inconscientes, comme chez les patients avec la vision aveugle que je vous ai montrée par exemple, en fait, pour ces patients, les représentations inconscientes existent, mais ne sont pas connectées à cet espace de travail global conscient. On va voir pourquoi. Ils ne sont pas connectés. En fait, tout simplement, ils existent, ils sont traités par des procédures en périphérie et ils n'arrivent pas à être amplifiés, en fait, à être diffusés pour être sous le feu de notre projecteur, en fait, dans notre scène imaginaire de théâtre. Et donc, on n'arrive pas à en prendre conscience. Ils ne sont pas tout simplement connectés. Ils sont trop loin de la scène. Un deuxième type de cas de figure, c'est dans les traitements subliminaux, lorsqu'il existe des représentations inconscientes qui sont connectées à l'espace de travail conscient, mais qui ne peuvent pas être amplifiées. On ne les amplifie pas. C'est-à-dire qu'en fait, il a une perception subliminale parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, qu'une des propriétés de cette perception inconsciente, c'est qu'elle est extrêmement éphémère. Elle ne résiste pas au temps. On a des perceptions inconscientes. Il y a beaucoup d'études aussi en psychologie qui montrent justement le caractère extrêmement éphémère de ces perceptions inconscientes. En fait, on ne peut pas toujours les utiliser comme un support de traitement de l'information. On les perçoit de manière extrêmement brève et après, en fait, ils s'effacent. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à être amplifiés pour entrer sous le feu de notre projecteur. Et donc, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les amplifier. D'autre part, donc vous voyez, ça a des conséquences sur certaines interprétations, même de l'inconscient en fait, hein, parce que là, ici, les études montrent que l'inconscient, quand même, certaines formes de l'inconscient sont extrêmement éphémères et qu'elles ne peuvent pas en fait être support d'un certain type de traitement. D'autre part, les représentations inconscientes sont connectées à l'espace de travail, mais ne peuvent pas être amplifiées puisqu'elles rentrent en compétition avec d'autres stimuli, parce qu'on a vu que ce travail conscient a des capacités limitées. C'est typiquement dans l'exemple du masque de masquage. Lorsque vous montrez d'abord un premier visage ou un mot, et après tout de suite vous montrez un autre mot, finalement le temps que votre projecteur arrive jusqu'à la scène, finalement il perçoit le deuxième. Il ne perçoit plus le premier. Donc en fait, c'est un système un peu injuste de compétition entre les informations parce que notre travail d'espace conscient a un certain nombre de capacités aussi limitées de traitement. Il existe une compétition de traitement entre les informations. Et donc, du coup, en fait, on va amplifier la deuxième information et pas la première. Et donc, enfin, ce qu'on va appeler l'inconscient cognitif sont des représentations qui sont inconscientes et qui sont connectées à l'espace de travail conscient, qui ne peuvent pas être suffisamment amplifiées aussi par un processus attentionnel, mais qui peuvent devenir le support aussi à un certain nombre de prises de décisions ou de traitements, ça par exemple, qui peuvent facilement aussi rentrer dans l'espace de travail conscient, par exemple lorsqu'on a des actions automatisées, quand on conduit sa voiture par exemple, vous ne pensez pas à toutes les opérations que vous faites. Par contre, si tout d'un coup vous avez un passant qui passe devant votre voiture, vous allez tout de suite donc amplifier, déplacer votre en fait, projecteur sur ce côté de la scène pour amplifier ces informations, vous voyez. C'est l'inconscient cognitif, en fait, où on peut être très, très influencé par des informations donc automatiques. Et en fait, Stanislas Duhem et ses collaborateurs vont utiliser un modèle aussi informatique pour, et grâce aussi à ses recherches neuroscientifiques, va essayer de suivre le cheminement d'une information dans le cerveau et pour déterminer à quel niveau elle devient inconsciente. Et donc là, on va poser la dernière question, c'est quelle architecture cognitive et cérébrale sous-tend le rapport conscient. Et donc là, juste une très très brève illustration de ces signatures de la conscience, hein, comme il l'appelle Duhem. La première signature, donc vous voyez, c'est toutes ces illustrations cérébrales que vous voyez. Ces petits points montrent en fait l'amplification pas par pas, presque milliseconde par milliseconde, hein, si vous voulez, de l'amplification de l'information au niveau du cerveau, lorsqu'on va moduler ce seuil en fait de la perception consciente. Et on va voir que dans la première signature de cet accès à la conscience, c'est que l'amplification de l'activité sensorielle. Donc au début, on commence par des zones comme tout à l'heure, je vous ai montré pour les mots très localisés, et que plus on augmente l'intervalle donc de présentation, le délai de présentation, plus on accède à la conscience vraiment milliseconde par milliseconde, on va voir que l'activité cérébrale va progresser vers des régions antérieures du cerveau et qu'il y aura l'activation des régions frontales et pariétales, donc d'un réseau qu'on appelle fronto-pariétal, en fait, qui va s'activer. Donc, c'est une progression vraiment qu'on peut illustrer ici et qui est simulée également par un modèle informatique. Donc, d'autre part, la deuxième signature, c'est que, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'on voit que cette amplification de l'activité est concomitante avec l'accroissement de l'activité dans certaines bandes de fréquences de neurones, des bandes gamma, par exemple, qui permet la mise en relation de régions à longue distance dans le cerveau. Donc, vous voyez, c'est toutes les connexions se mettent en route, en quelque sorte. Alors, ces bandes de fréquences, c'est quoi? C'est, voyez, une autre métaphore, c'est que lorsque des neurones sont engagés dans la même activité, ils dansent ensemble. Ils y mettent ensemble une activité. Et donc, ils synchronisent leur activité dans une certaine bande de fréquences. Voyez. Et donc, en fait, on voit quelle est la synchronisation qui se fait dans certaines bandes de fréquences. Et donc, après, ces bandes de fréquences vont illustrer, justement, est-ce que des neurones situés très, très loin vont se synchroniser, vont se faire signe et ils vont se mettre à danser ensemble, ou des neurones plutôt dans des régions locales du cerveau. Et donc, comme ça, on peut suivre, en fait, la synchronisation progressive de ces activités. Donc, après, il y a des synchronisations à longue distance dans des bandes de fréquences bêta et des augmentations de leurs relations causales qui vont se stabiliser et vont traiter donc l'information par l'espace de travail conscient. Et donc, vous voyez, cette activité va être, donc, comme on a dit, très lié aux régions fronto-pariétales. Donc, et en fait, il y a un autre chercheur qui s'appelle Marcus Recol, qui, en fait, a beaucoup diffusé donc, le concept de resting state, de l'état de repos. C'est qu'à chaque fois, on regarde le cerveau en activité, mais on sait que ce réseau fronto-pariétal est également actif dans un état de repos. Donc, il est un peu moins actif et que, par exemple, ici, il va illustrer en premier certaines zones cérébrales, lorsque le cerveau va rentrer en activité, c'est qu'ils vont se désinhiber, s'inhiber, ils vont arrêter leur fonctionnement pour permettre à d'autres zones de s'activer. Et sinon, en état de repos, le cerveau continue de fonctionner, en fait, progressivement, en fait, de maintenir l'activité dans ces zones fronto-pariétales, hein, qui seraient liées justement à cet espace de travail conscient. Et d'ailleurs, entre parenthèses, certaines pathologies neuropsychiatriques, comme par exemple les troubles schizophréniques, l'apparition des hallucinations, etc., sont souvent, en fait, aujourd'hui, de plus en plus, on se focalise sur cet état de conscient, de repos, le resting state du cerveau, pour montrer, en fait, qu'il y a une espèce de hyperactivité de cette partie du cerveau pendant au repos, en fait, de ces zones fronto-pariétales qui, finalement, produiraient des effets, en fait, des symptômes ou des sensations, en fait, aux patients. Voilà. Donc ça, c'est pour le resting state, pour l'activation des réseaux frontopariétaux. Et on sait aussi que c'est exactement ce type de réseaux frontopariétaux qui vont commencer à diminuer et inhiber complètement leur activité pendant certains états, comme par exemple ici dans l'état végétatif, ces zones ne fonctionnent pas. En fait, sont très 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 réprimées, en fait. Ou dans le coma, vous voyez, leur activité, donc plus c'est rougissi, plus, en fait, ils ne fonctionnent pas. Dans le sommeil, vous voyez, ils restent un tout petit peu en activité, mais que, quand même, le métabolisme dans ces régions est quand même fortement diminué. En fait, mais c'est toujours les mêmes zones, donc, fronto-pariétales, et donc aussi certaines régions temporales qui vont, donc, être corrélées à ces états de conscience différentes. Peut-être qu'on va revenir sur l'état végétatif. Il y a une certaine signature de l'état de conscience. On va revenir après si vous êtes intéressé sur cette question. Et donc, voilà, c'était juste pour terminer parce que je vois que j'ai dépassé le temps. C'est qu'en fait, on peut utiliser ce genre de technique pour étudier les signatures de la conscience dans un état végétatif, par exemple, hein, ou dans d'autres états cliniques et d'utiliser en fait ces mesures pour le meilleur diagnostic de ces états, hein, que finalement on a du mal en fait à diagnostiquer. Récemment, il y avait des faits divers, il y avait aussi la publication à grande échelle en fait de résultats ici deux patients, par exemple, en état végétatif qui montraient une activité cérébrale, avec qui on pouvait communiquer grâce à ces mesures en fait cérébrales, qui donnent l'espoir aussi en fait pour des applications cliniques futures. Et d'autre part, aussi, on peut suivre ce qu'on appelle la neuroplasticité chez des personnes qui se sont réveillées de ce type d'état végétatif et de voir, en fait, par quel mécanisme ils sont rentrés dans un état conscient. Et en fait, ici, des études qui montrent, en fait, qu'il y a une espèce de repousse du neurone, de certaines connexions, notamment dans certaines zones stratégiques pour la conscience, hein, qu'on a expliqué tout à l'heure. Et en fait, que bien sûr que c'est des cas uniques, hein, sur des centaines de patients, il y en aura un en fait qui montrera ce, par exemple, ce pattern. Mais c'est intéressant quand même, donc de montrer l'espoir en fait qui peut susciter ces méthodes. Et ce de quoi on n'a pas parlé, c'est la conscience sociale. Par exemple, on peut étudier aussi les bases cérébrales de ce qui supporte nos rapports. Ce temps de nos rapports conscients ici, on sait que ces zones frontales ici, singulaires, vont s'activer à chaque fois quand on est face à une information sociale. Certaines zones temporales, lorsque on va prendre conscience de la valeur sociale des signaux d'autrui, par exemple le regard, c'est que quelqu'un vous regarde, c'est un signal extrêmement fort et ça suscite immédiatement l'activation de ces zones, certaines zones cérébrales ici impliquées dans la conscience sociale. On n'a pas parlé de comment prendre conscience de la douleur de l'autrui. Et là, il y a aujourd'hui des études en neurosciences cognitives et en psychologie sur les bases cérébrales de l'empathie. Quand vous souffrez pour autrui, hein, vous activez ici justement ces zones frontales et certaines zones bilatérales ici comme l'insula, hein, de manière systématique. Et lorsque vous avez, par contre, vous êtes connecté à vous-même, vous avez conscience de votre propre action et vous pouvez le différencier de l'action de l'autrui. Donc, comme par exemple, lorsque vous êtes imité ou vous-même vous réalisez une action et vous regardez quelqu'un qui vous imite, par exemple, la distinction soi-autrui, c'est moi qui fais l'action ou c'est l'autre qui le fait, est également sous-tendue ici par l'activation de certaines zones cérébrales différentes. Pour la même action, vous avez dans le cortex pariétal, en fait, des différences. Chacun dans l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite ne va pas réagir de la même façon que si c'est vous qui faites l'action ou si vous êtes imité. Donc, en fait, on sait que ces distinctions peuvent servir d'un support aussi de ces différences, soit autrui. On sait que dans certaines pathologies, notamment neuropsychiatriques, le patient perd justement cette distinction entre soi et autrui, ce qui peut expliquer ces phénomènes d'influence, etc. Voilà. Donc, c'est un certain nombre d'illustrations que je voulais vous donner aussi de la tournure qu'aurait pris également la présentation de ce sujet. Développer aussi, appeler des opérations beaucoup plus complexes comme la cognition sociale, le rapport à soi, etc. Donc, je vous remercie pour votre attention.